Calade, 100.9 présente.
Chez moi, on mange bon.
Chez moi, on mange bon.
Chez moi, on mange bon.
Oui. Et chez moi, on mange bon.
Vieillir et bien manger.
Vieillir et bien manger à domicile.
À domicile.
À domicile.
D'accord.
Si vous voulez.
En partenariat avec le département du Rhône.
Sylvain Fourchette.
La IASAD.
Et le CCAS de Beaujeu.
Calade 100.9.
Chez moi, mange bon.
Vieillir et bien manger à domicile.
En direct du théâtre de Beaujeu,
le vendredi 9 décembre à 15h.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute sur Radio Calade, une émission spéciale en direct de la salle du théâtre de Beaujeu. Nous sommes accueillis par la municipalité de Beaujeu, partenaire de cette émission, ainsi que le département du Rhône. L'association Silver Fourchette et Radio Calade à la réalisation d'un atelier radio à destination des seniors stagiaires volontaires sur la thématique de la santé par l'alimentation. Dans cette émission, vous allez découvrir plusieurs plateaux qui ont été conçus et réalisés par le groupe des seniors stagiaires. Et pour commencer, un plateau d'invités rassemblant les partenaires du projet que nous allons découvrir en compagnie de nos deux animatrices, Marie-Thérèse et Magali. Mesdames, bonjour, c'est bonjour. À vous.
Bonjour. Bonjour Sylvie. Et bonjour chers auditeurs, merci d'être à notre écoute. Tout d'abord, je vais vous présenter nos invités qui sont aussi nos partenaires. Avec nous, Pauline Ronzi de Silver Fourchette, chargée de projet Rhône, Drôme et Isère. Bonjour Pauline.
Bonjour Marie-Thérèse.
Nous avons également Gaëtan Brandler, vice-présidente du Centre communal de l'action sociale, le CCAS de Beaujeu, et adjointe de la commune de Beaujeu. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Marie-Thérèse.
Nous recevons aussi Jean-Paul Cimetière, président de l'IASAD, l'association intercommunale d'aide et de soins à domicile de Beaujeu. Bonjour
Jean-Paul.
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Thérèse.
Voilà, et enfin, notre dernière invitée est Stéphanie Van Bremersch, cadre de santé pour les personnes âgées et personnes handicapées au département du Rhône. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Marie-Thérèse.
Je me tourne tout d'abord vers vous, Pauline Ronzi. Pouvez-vous nous présenter votre association Silver Fourchette ?
Oui, bien sûr. Nous sommes une association de prévention par la thématique de l'alimentation pour les seniors, les personnes de 60 ans et plus. Et nous promouvons au quotidien le bien manger pour bien vieillir. On déploie des actions sur le territoire national depuis 2014, des actions variées telles que des ateliers de cuisine, des randonnées gourmandes, des ateliers sur des marchés, dans des supermarchés, et puis aussi, bien évidemment, des émissions de radio. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui.
Et quel est votre rôle à vous dans cette association ?
Alors, moi, je suis donc chef de projet sur les trois départements que vous avez cités, la Drôme, l'Isère et le Rhône. Et je suis donc en charge de déployer des projets de prévention sur ces territoires, d'organiser, de coordonner les partenaires, les intervenants, et d'accueillir et d'animer, bien évidemment, nos bénéficiaires.
Et comment est né le projet qui nous concerne aujourd'hui et pourquoi avoir choisi cette thématique ?
Alors, le projet d'émission de radio est né en collaboration avec la Radio Calade, de l'envie de donner la parole à des seniors et aussi à des personnes souvent invisibilisées, donc des seniors à domicile, et aussi l'envie de mettre en avant les métiers du soin à domicile qui aujourd'hui, on le sait, sont un petit peu malmenés.
Et pourquoi vous avez choisi la radio ?
La radio, parce que c'est un média qui me semble présenter deux avantages. Le premier, c'est de pouvoir permettre à des seniors participants comme vous de s'emparer d'un média qui permet de faire entendre leur voix. Et puis deuxièmement, parce que ça permet aussi de diffuser nos messages de prévention au plus grand nombre, d'une manière très très large, peut-être un peu plus large que d'habitude, puisque très souvent, nous on propose quand même des tout petits formats d'ateliers autour de entre 12 et 15 participants.
Merci.
Je vous en prie.
Gaëtan Brandler, Expliquez-nous le rôle du CCAS dans le domaine de l'alimentation des personnes et quelle est l'application du CCAS de Beaujeu dans ce projet.
Bien volontiers. Je reprendrai la question un peu différemment, en commençant par l'implication du CCAS de Beaujeu dans ce projet. Pourquoi est-ce qu'on s'est impliqué? Et ensuite, je répondrai à la deuxième question sur pourquoi on s'est impliqué dans cette question autour de l'alimentation. Donc la commune de Beaujeu a le plaisir de recevoir cet événement dans le théâtre de Beaujeu, où vous êtes aujourd'hui. Et nous sommes heureux de soutenir ce genre d'initiative qui ont rendu acteurs des habitants. Et ce que on constate aussi aujourd'hui, c'est on est également dans l'intergénérationnel. On n'est pas qu'en direction des personnes âgées. On le voit bien aujourd'hui dans cette assistance. On a des personnes âgées, plus âgées encore, mais aussi beaucoup de jeunes. Et c'est vraiment très agréable. Donc, par les liens que nous tissons avec des associations dans le travail du CCAS, on a pu sensibiliser des seniors avec l'aide de l'Amicale des seniors, justement. Donc, on a sensibilisé un certain nombre de personnes, plus d'une dizaine, pour participer à ce travail d'écriture radiophonique en tant que stagiaire journaliste, et on remercie bien toutes ces personnes. Donc, nous avons été soucieux durant tout ce travail préparatoire de participer à une bonne coordination entre les différents acteurs, et en particulier avec l'association Silver Fourchette, vers laquelle je me tourne. Alors, je viendrai maintenant au rôle du CCAS et l'alimentation. En fait, ce rôle avec l'alimentation, le lien n'est pas vraiment direct, puisque le CCAS a pour fonction de venir en aide aux personnes fragiles, aux personnes les plus vulnérables, en raison d'une situation sociale difficile, en fonction de l'âge ou en fonction d'un handicap. Donc, le CCAS peut décider de donner des aides financières, des prêts ou des aides alimentaires. Il peut prendre en charge certaines factures pour des factures d'eau, d'électricité, de loyer, des factures aussi concernant la santé, avec des prises en charge pour les mutuelles, par exemple. Mais le rôle principal du CCAS, comme nous sommes une petite commune et nous n'avons pas de travailleurs sociaux, c'est plus un rôle de veille sociale et de coordination avec les différents partenaires. Sur Beaujeu, on a beaucoup, par rapport à la taille de la commune, d'associations qui œuvrent ou avec les familles ou avec les personnes âgées. Et nous, on a vraiment un rôle de lien. Ce que l'on fait, quand on reçoit des personnes, c'est de vérifier que toutes les personnes perçoivent bien leurs droits. Et on a une étude très récente de la CAF qui montre que les personnes ne demandent pas ce à quoi elles ont droit. Et donc, c'est déjà une des préoccupations que nous, on peut avoir. Et ensuite, on oriente les gens vers la Maison France Service, vers les travailleurs sociaux du département ou les différentes associations comme la Croix-Rouge, la IASAD, l'Amicale des seniors, l'Association des familles, etc. en fonction de la problématique. Et dans les aides que le CCAS accorde, on considère les ressources des foyers, on considère les charges également, le nombre de personnes qui se trouvent dans le foyer, et surtout on fait attention à ce qu'on appelle le reste à vivre. Qu'est-ce qui reste à la personne? Et là on en arrive à l'alimentation, pour se nourrir un petit peu correctement. Donc on est loin du bien manger, du manger de qualité, etc. On est plus sur, en tout cas dans notre secteur, sur une alimentation de survie. Et justement, j'ai en tête là, pour parler de la coordination avec d'autres associations, en même temps que de parler de l'alimentation, donc j'ai en tête la situation d'une personne qui dormait dehors depuis un certain nombre de mois, et pour laquelle, en lien avec l'association Ayasan, eh bien, on a fait le pari, et on est arrivé, de lui apporter chaque jour un repas équilibré. Donc, nous, on intervient pour des familles pour lesquelles les restrictions alimentaires sont importantes, pour des familles, mais aussi de plus en plus pour des hommes seuls, de plus en plus encore pour des retraités, ce qu'on ne voyait pas avant, des gens qui se sont appauvris et qui ne peuvent plus assurer les différentes charges. Donc, nous avons aussi une action plus directement en ce qui concerne l'alimentation, en lien avec le CCAS et l'Amicale des seniors. Hein, l'Amicale des seniors organise chaque année un repas festif. Donc, il s'agit d'un repas amélioré, pris dans un cadre convivial. Et ça se passe justement dans ce théâtre-là qui est mis à disposition par la commune. Donc les personnes s'y retrouvent pour manger des petites choses bien sympathiques, pour chanter avec les chanteurs qui sont à l'œuvre sur cette scène. Et donc ces personnes s'y trouvent bien, retrouvent du lien social, retrouvent des personnes qu'elles n'avaient pas vues depuis longtemps. Et pour certaines, eh bien, ça représente vraiment la seule sortie de l'année. Et donc, c'est vraiment très, très important. Alors, en conclusion, c'est vrai que le CCAS a le souci du bien manger, en particulier pour ce qui concerne la cantine des enfants. Mais notre rôle est plus un rôle de veille et d'orientation vers d'autres acteurs.
Merci Gaëtane. Jean-Paul Cimetière, vous êtes président de l'AYASAD. Pouvez-vous nous présenter votre association et ses actions dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui ?
Bien volontiers. Simplement, je dois rappeler que l'association AYASAD date depuis 1975. Nous allons bientôt fêter nos 50 ans. Donc vous voyez que c'est quand même une association qui se porte bien et qui a beaucoup évolué au fil du temps. Aujourd'hui, donc, l'association AYASAD intervient avec ses 78 salariés sur un territoire géographique assez étendu. On a pratiquement plus de 42 communes, avec une activité diverse. Nous faisons à la fois des soins infirmiers à domicile, nous faisons de l'aide et l'accompagnement et garde à domicile, d'équipes de soins Alzheimer à domicile, un problème de portage de repas que nous avons pu détailler dans un instant, quelquefois du petit bricolage, et dernièrement nous avons mis en place de la téléassistance, qui est une activité qui aujourd'hui est en plein essor. Globalement, on s'aperçoit que, compte tenu effectivement des problèmes sociétaux que nous pouvons rencontrer aujourd'hui par rapport à notre périmètre géographique et le vieillissement de la population, nos activités sont de plus en plus croissantes, et globalement aujourd'hui, malheureusement, le manque de personnel ne nous permet pas de satisfaire toutes les demandes, mais on espère bien arriver un jour à pouvoir croître nos effectifs dans un domaine suffisant pour mettre toute l'activité en place. Aujourd'hui, effectivement, notre participation à cette émission nous semble évidente, puisque une partie de notre activité, c'est le partage du repas, et donc on va en parler dans un petit moment. Le partage du repas est une activité importante et qui croît depuis 2-3 ans, surtout avec malheureusement la période que nous devons vivre depuis 3 ans avec le Covid. On s'aperçoit que globalement le partage du repas est en plein essor, et aujourd'hui ce que l'on peut dire, c'est que globalement sur Ainay-les-Plaines on sert à peu près 12 000 repas par an et auprès de plus de 80 bénéficiaires. Donc vous voyez un petit peu, c'est important. En ce qui concerne donc cette activité-là, on a aujourd'hui des gens qui sont... L'ensemble de nos personnels est formé, alors je ne parle pas que pour les gens du partage du repas, mais sur l'ensemble du personnel de l'AYASAD, c'est-à-dire les 78 salariés. Aujourd'hui, tout le monde est formé à la nutrition. Et globalement, lorsque nos salariés interviennent chez les particuliers, ce qu'on appelle nos bénéficiaires, on peut effectivement dénoter, dans certains cas, un certain nombre de dénutrition. Et là, c'est à ce moment-là que nous intervenons avec l'aide des soins infirmiers et autres, avec les ergonomes, les psychomicronutritionnes, pour mettre en place toutes les activités nécessaires pour effectivement satisfaire aux demandes des bénéficiaires.
Et quelle est l'importance de la qualité de l'alimentation dans ce projet ?
Alors ça, la qualité de la nutrition, c'est très important. Aujourd'hui, tous les repas que nous servons sont confectionnés au sein de l'hôpital Beaujolais-Ville, centre hospitalier Beaujolais-Ville, avec l'aide d'une diététicienne, Et donc, ce sont des repas qui sont des repas complets. Chaque plat est cuisiné en barquette individuelle. On sert des repas complets, à savoir entrée, plat du jour, enfin complet, soit un féculent, soit un légume, soit une viande, soit un poisson, du fromage, des fruits, enfin vous voyez que c'est très complet et c'est important pour le bien-être des gens. On pense que globalement, se nourrir correctement, ça permet de conserver un état physique correct à son domicile. Ça, c'est important. Et lorsque l'on mange correctement, on est bien aussi globalement dans son environnement. On est bien dans son environnement, aussi bien auprès de ses proches qu'au niveau de l'environnement, communal, intercommunal. Le bien manger, c'est important, c'est une chose primordiale. Et je rappelle que par rapport à des enquêtes qui ont été effectuées au niveau national, dans la pauvreté sociétale, il y a le premier sujet qui est la nourriture, la nutrition. La nutrition vient avant le logement. Donc c'est important de veiller à ce que tout le monde puisse se nourrir correctement.
Donc, dans l'esprit du bien manger qui nous intéresse aujourd'hui, vous êtes très sensible et vigilant à la qualité des produits que vous livrez.
Absolument, absolument. Pour preuve, de temps en temps, pas plus tard qu'aujourd'hui midi, nous avons déjeuné avec les pâtes au repas que nous fournissons à nos bénéficiaires.
Et c'était très bon.
Vous avez pu apprécier la qualité des mets. On se sert effectivement au niveau du centre hospitalier Beaujolais-Belleville. Ces menus sont confectionnés avec l'aide des nutritionnistes, donc ça c'est aussi important. Et globalement, nous avons des réunions régulières avec l'hôpital pour faire part de nos remarques. Et lorsque de nos bénéficiaires font remonter dans nos services des petits loupés, nous intervenons sous les 48 heures pour que les loupés soient récupérés. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans nos services qui sont très réactifs. Et globalement, tout se passe bien aujourd'hui. La qualité, c'est important.
Merci.
Je vous en prie. Et un seul numéro de téléphone, 04 74 69 27 72. N'hésitez pas, si vos proches ont besoin de repas, appelez-nous, nous pourrons répondre à vos demandes.
Merci. Je vais me tourner vers Stéphanie Van Bremersch. Vous êtes cadre de santé pour le département du Rhône. Pouvez-vous définir ce métier au sein du département et nous préciser quelles sont vos missions ?
Oui, bien sûr. Donc, je travaille au sein de la direction de l'autonomie qui accompagne les personnes âgées et les personnes handicapées du Rhône à domicile ou dans les structures. Donc, nous travaillons beaucoup avec les gestionnaires des structures sociales et médico-sociales qui accompagnent les personnes âgées et les personnes handicapées. Nous contractualisons avec eux pour œuvrer pour une qualité de l'aide et de l'accompagnement. La direction de l'autonomie, elle fait partie du pôle solidarité au sein du département. C'est un pôle qui regroupe trois champs, la direction de l'autonomie, la direction enfance-famille, que vous connaissez certainement, puisque dans la direction enfance-famille, il y a les PMI, les protections maternelles et infantiles, il y a l'aide sociale à l'enfance, notamment dans les choses les plus connues. Il y a une deuxième direction qui est la direction insertion, emploi et logement, donc qui accompagne sur le plan social l'accompagnement vers l'emploi, l'accompagnement vers le logement des personnes les plus précaires. Et puis donc la direction de l'autonomie.
Quelle est l'implication du département du Rhône dans la nutrition des personnes âgées ?
Alors, selon la Haute Autorité de Santé, 10% des personnes âgées à domicile seraient dénutries. Et on estime que 40% des hospitalisations de personnes âgées le sont pour une conséquence de la dénutrition. L'alimentation impacte l'état de santé global, physique mais aussi psychique. C'est un facteur de risque d'aggravation du vieillissement pathologique, donc ça augmente la mortalité, ça augmente les infections, ça augmente les chutes et ça augmente les fractures. Donc le département est bien conscient de la prévalence de la dénutrition au sein des habitants du Rhône et donc finance par de multiples moyens, d'une part l'aide et l'accompagnement à domicile et en structure, mais également des actions de prévention. Pour l'aide et l'accompagnement, on finance par ce qu'on appelle l'allocation départementale à l'autonomie, l'ADPA, des structures comme la IASAD. Donc on finance les auxiliaires de vie à domicile qui peuvent venir pour aider à faire les courses, Jonathan l'expliquera un peu plus tard, à faire les courses, préparer les repas, etc. Et puis on finance, pour le partage de repas, on finance le coût de la livraison. Dans les EHPAD, nous finançons aussi une aide à l'autonomie, Nous pouvons participer pour les personnes les plus précaires avec l'aide sociale. Et puis, on participe également au budget dépendance, qui finance pas mal de choses. Pour les EHPAD, il y a quelques années, avec Silver Fourchette, nous avions organisé un concours des chefs. Et donc, les services de l'autonomie au sein des maisons du Rhône peuvent orienter en cas de besoin.
Voilà. Et comment intervenez-vous dans le projet qui nous concerne aujourd'hui et précisément dans l'action mise en œuvre ?
Donc chaque année, le département du Rhône publie un appel à projet en matière de santé globale et de bien vieillir dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Donc la conférence des financeurs, c'est une instance départementale qui regroupe les financeurs du bien vieillir. Donc on retrouve avec le département, on retrouve l'Agence régionale de santé, les caisses de retraite principales et complémentaires, la CPAM, la Mutualité française et certaines communautés de communes. Son objectif est de développer et de coordonner les actions en faveur des Rhodaniens âgés de 60 ans et plus par le lancement d'appels à projets et la tenue de séances plénières pour échanger sur les politiques autonomie. Les thématiques d'action sont variées, donc il y a évidemment la nutrition, il y a aussi l'activité physique adaptée, le lien social, le numérique, qui est important pour les personnes âgées isolées. Et depuis plusieurs années, on finance donc l'association Silver Fourchette, et l'émission d'aujourd'hui se tient dans le cadre de ce financement. Le sujet de cette émission nous paraît essentiel, car les plaisirs sensoriels, et vous verrez que vos cinq sens seront mobilisés à la fin de cette émission, mais aussi la mémoire de ces cinq sens, ainsi que la convivialité de la préparation jusqu'à la dégustation, participe pleinement au bien vieillir.
Eh bien, merci Stéphanie. Et voilà, eh bien, notre séquence dans cette émission arrive à son terme. Merci à vous tous pour votre participation et de nous avoir apporté ces informations les plus intéressantes. Nous passons la parole pour la suite de cette émission à une autre équipe.
Mais avant cela, nous vous proposons une chanson choisie par toute l'équipe. Bonne écoute, chers auditeurs.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi, l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
Nous avons choisi de vous faire écouter la chanson « L'Auvergnat », créée et interprétée par le grand poète Georges Brassens. Cette chanson, créée en 1965, est en accord avec la thématique de notre émission. Elle parle de personnes solidaires et bienveillantes qui aident une autre personne dans la misère. Maintenant, nous allons vous diffuser l'enregistrement d'un plateau radio réalisé pendant notre atelier radio. Des interviews sur la thématique « Nourrir et prendre plaisir à manger à domicile ». Bonne écoute à tous.
Chez moi, on mange bon.
Vieillir et bien manger à domicile.
Nous poursuivons notre émission avec nos invités. Et nous allons maintenant évoquer l'alimentation et le portage à domicile. Bonjour Céline Poignant.
Bonjour.
Vous êtes diététicienne à l'hôpital de Beaujeu. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi nous devons bien manger ?
Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'une alimentation équilibrée est indispensable à tous les stades de notre vie. Donc, quand on vieillit, on va avoir des besoins un peu plus spécifiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien s'alimenter pour pouvoir prévenir toutes les pathologies liées au grand âge, donc notamment la dénutrition, tout ce qui est aussi problème de faiblesse musculaire qui va pouvoir engendrer des chutes, des fractures. Et puis aussi, ça permet de prévenir toutes les infections qu'on peut avoir quand on prend de l'âge, en fait.
Est-ce que l'on doit moins manger en vieillissant? Parce que moi, je mange un peu moins de viande, par exemple.
Alors, on croit qu'il faut moins manger quand on vieillit, mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre organisme, il a des besoins plus spécifiques. Donc on va devoir plutôt mieux manger. Donc on va optimiser nos apports en mangeant des aliments qui vont nous apporter notamment des protéines. Et c'est la viande qui va pouvoir nous apporter le plus de protéines. Alors après, on mange forcément moins de viande quand on vieillit parce que souvent on en a moins envie. Mais on peut facilement la remplacer par d'autres choses, notamment du poisson, des œufs. On peut aussi le remplacer par des produits laitiers qui apportent aussi beaucoup de protéines. On a aussi toutes les protéines végétales, hein, dans les légumes secs, dans les féculents. Donc il va falloir un petit peu optimiser tous ces aliments-là et les retrouver dans notre alimentation.
Et est-ce qu'il y a des aliments qui sont déconseillés, interdits, même quand on prend de l'âge ?
Alors non, il n'y a pas d'aliments interdits. Il faut essayer de manger de tout, mais en quantité raisonnable. On va essayer aussi au maximum de limiter tous les régimes restrictifs. Parce qu'en fait, ces régimes restrictifs, ben souvent, ils sont un petit peu insipides. Donc, ils vont nous enlever le goût. Donc, on va moins avoir envie de manger. Donc, on va les limiter au maximum. L'idéal, c'est de privilégier au maximum la convivialité, le plaisir et manger ce qu'on aime.
Et comment composez-vous les menus ?
Alors, au niveau du portage de repas, les menus sont les mêmes que ceux de l'hôpital. Donc, nous sommes deux diététiciennes dans les hôpitaux de Belleville et de Beaujeu et nous élaborons les menus avec la responsable restauration. Donc, un menu équilibré, il va se réaliser sur le repas du midi, mais aussi sur toute la journée, voire toute la semaine. Donc, on va équilibrer tous nos menus et les varier du lundi au dimanche. Donc, On va faire un menu avec une entrée, un plat, un fromage et un dessert. Donc dedans, vous aurez forcément un légume ou un fruit cru, un légume ou un fruit cuit, une part de protéines, donc viande, poisson ou œuf, un produit laitier et une part de féculents. Donc les menus de l'hôpital sont aussi complétés par un potage pour le repas du soir et une miche de pain. Donc on va privilégier aussi beaucoup les aliments, enfin les plats surtout, qui sont prisés par les personnes âgées. Donc on va faire des plats régionaux, des plats comme la choucroute, comme le boudin aux pommes, des choses comme ça qui sont très prisées de nos personnes âgées. On va limiter ce qu'ils n'aiment pas. Donc notamment les crudités qui vont être dures, qui vont être difficiles à mastiquer, ben on évite d'en mettre dans nos menus pour que que nos usagers mangent le mieux possible.
En quoi cela contribue à bien manger ?
Alors, dans le portage de repas, du coup, on a un repas qui arrive tout prêt à domicile. Donc, la personne, elle a rien à faire, elle a juste à se mettre les pieds sous la table. Et déjà, ça contribue au bien manger. Ça permet d'avoir un repas équilibré et complet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec aussi un début de repas du soir, puisqu'on livre le potage. Et puis, du coup, ça permet aussi le portage au repas de lutter contre l'isolement, puisqu'on a une personne qui passe tous les jours ou plusieurs jours par semaine pour apporter un repas. Donc, ça fait aussi une petite visite qui arrive dans la journée.
Jonathan Petit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes salarié à l'IASAD et vous exercez en tant qu'aide à domicile. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle dans l'alimentation à domicile des bénéficiaires ?
Alors, mon rôle en tant qu'aide à domicile, c'est d'aider et accompagner des personnes âgées ou en situation de handicap pour qu'elles puissent continuer à vivre chez elles. Donc, dans le cadre de l'alimentation, ça va être de les aider à se nourrir, tout simplement. Donc pour cela, mes interventions vont être différentes selon les besoins de chaque personne. Ça peut commencer par faire des courses, par exemple, accompagner de la personne ou non. Ça peut être simplement réchauffer des repas, donc par le portage à domicile ou des plats préparés par la famille aussi. On peut aussi aider les personnes pendant le repas pour les aider à manger ou simplement être une compagnie pour les personnes qui n'aiment pas forcément manger seules. Et ça peut également être de préparer des repas de A à Z, donc tout en respectant une règle d'hygiène et en vérifiant les dates de péremption. Et je vais essayer aussi de faire une sensibilisation sur le tri sélectif.
Comment intervenez-vous auprès des bénéficiaires pour que ceux-ci gardent le plaisir de manger ? Parce qu'on sait qu'en vieillissant, on a moins envie de manger.
Alors oui, donc pour garder le plaisir, moi quand j'arrive chez une personne, déjà je vais lui demander ce qu'elle souhaite manger et ses habitudes, comment elle a l'habitude de les préparer et je vais même demander des conseils à cette personne pour la préparation de son repas. Alors le but, je vais essayer de mettre en éveil tous ses sens en partageant le moment. Et par exemple, pour le portage du repas, on va essayer de ne pas présenter le repas dans la barquette. Et on va plutôt faire une jolie présentation dans l'assiette. Également, si on peut faire mijoter un petit peu les plats pour donner des odeurs. Et les intituler des plats aussi, c'est important de leur signaler.
Ces personnes concernées peuvent-elles aider à la préparation de leur repas ?
Oui, effectivement. Donc, ça va contribuer au plaisir si elle peut participer à l'élaboration de son repas. Donc, le but, c'est pas de faire à la place de la personne, mais vraiment de faire avec la personne. Donc, une personne autonome, c'est important qu'elle puisse garder l'autonomie au maximum. Et donc, tout ce qu'elle sera capable de faire, je vais la laisser faire, même si ce n'est que éplucher les légumes, par exemple.
D'accord, merci.
Bonjour, Colette Ruet. Vous êtes responsable du service de portage de repas à domicile à l'IASAD. Pouvez-vous nous décrire ce qui déclenche la mise en place d'un service de livraison des repas ?
Bonjour. Donc, le service peut être mis en place tout simplement lors d'une sortie d'hôpital. Donc, ce service est demandé dans ce cas de figure par une assistante sociale. Donc, même si l'assistante sociale nous demande la mise en place du service, automatiquement, on aura systématiquement un contact avec la famille parce que, c'est une procédure qui est en place. Autrement, ça peut être aussi la famille elle-même qui nous demande le service, hein, lorsqu'il y a une perte d'autonomie, une perte d'envie de cuisiner et dans beaucoup de cas une demande faite directement par le bénéficiaire en cas d'une période de fatigue et là souvent c'est du temporaire, on est là juste pour les aider dans un moment critique et on intervient vraiment sur une période assez courte.
Et comment fonctionne la livraison à domicile ?
Donc le service portage de repas à domicile est un service qui peut être aussi bien à court terme qu'à long terme. Donc il reste assez souple. Hein. C'est un service qu'on peut mettre rapidement en place, on peut modifier à tout moment, on peut arrêter aussi facilement. On est vraiment là un service qui est en place tout simplement pour aider la personne sur un moment où elle a besoin. Donc le portage de repas est proposé en liaison froide, c'est-à-dire qu'on arrive avec des plats qui seront systématiquement réchauffés, et donc on propose des repas pour consommer tous les jours, 7 jours sur 7, en sachant qu'on n'a que 4 jours de livraison.
Pour ces livraisons à domicile, les menus sont-ils imposés ?
Donc les menus sont imposés, effectivement. Nous avons le choix des régimes. Hein. Si la personne a un régime, automatiquement, on respectera ce choix et autres. Mais la personne ne peut pas choisir les plats. Il y a un avantage quand même, parce que souvent, les personnes qui choisissent trop leur plat restent toujours avec les mêmes ingrédients, alors que là, automatiquement, ils vont consommer des choses qu'ils n'avaient plus l'habitude de manger ou qui ne connaissaient pas, et j'en ai beaucoup qui me disent, ben voilà, on a consommé ça, je connaissais pas, et c'est très bon, et c'est très bien, donc voilà.
Par exemple, en ce moment, dites-nous, à cette saison, de quoi sont composés vos menus ?
Donc les menus. Donc là, notre fournisseur respecte les fruits et légumes de saison. Donc c'est de la cuisine traditionnelle. Donc l'hiver, ça sera plus axé sur le chou. Là, l'hiver, on retrouve du boudin, des tripes. Il y a quand même un petit peu d'abat, parce qu'en fin de compte, les personnes âgées étaient une génération qui avait l'habitude de manger les abats. Donc on a cette chance avec ce fournisseur de pouvoir leur proposer des plats qu'ils avaient qu'ils consommaient avant, qu'ils cuisinaient. Et donc après le fournisseur nous propose aussi de lorsque par exemple pour Noël il y a des menus qui sont améliorés, qui sont un petit peu à l'écoute des fêtes traditionnelles et autres, et ça fait toujours plaisir à nos bénéficiaires.
C'est appétissant.
François Chavel, bonjour. J'ai appris que vous étiez livreur au sein de l'AIASA, livreur de repas justement. Vous en livrez combien par jour ?
Bonjour à tous. On livre un nombre variable de repas. C'est pas tous les jours pareil. La moyenne, elle se situe entre 35 et 40 à peu près par jour. Mais comme Colette l'a dit tout à l'heure, c'est très souple. Et donc, il y a des gens chez qui on livre une seule fois par semaine, et puis il y a des gens chez qui on livre quatre fois par semaine, tous les plateaux, toute leur alimentation, en quelque sorte. Donc c'est variable, je dis, mais la moyenne est entre 35 et 40, à peu près.
Si vous livrez des repas et que vous constatez qu'il reste encore des choses dans les plateaux, que faites-vous ?
Ben, j'essaye de comprendre pourquoi je suis devant ce problème. Et puis après, ben, j'en réfère à Colette, parce que c'est elle qui est en relation soit avec la personne bénéficiaire, soit avec la famille, avec l'entourage. Et puis, pour essayer de savoir pourquoi, il peut y avoir plein de raisons. Il y a des fois, on ajuste. Des fois, au début, on livre un peu trop de plateaux, et puis les gens, ils ont moins d'appétit, donc après, il faut essayer d'identifier le problème. Voilà.
Et au-delà du portage de la livraison de ces repas, est-ce que vous avez la possibilité de créer des liens avec les personnes ? Est-ce qu'ils vous offrent l'apéro, par exemple, ou le café ?
Oui, alors bien sûr que c'est arrivé souvent qu'on nous propose quelque chose à boire, bien sûr, oui. Les personnes chez qui on va porter des repas, ils sont comme tout le reste de la population, et donc, oui, très souvent, on nous a proposé en tout cas. Au bout d'un moment, on ne nous propose plus, parce que comme on refuse, après ils refusent, ils ne proposent plus. Mais ça n'empêche qu'on prend quand même un petit peu de temps, on prend quand même quelques minutes pour parler avec eux, pour les écouter surtout, plus que pour parler. Et puis, on peut bien arriver à parler un petit moment sans boire.
Voilà. Cette séquence de l'émission se termine et nous remercions nos invités de toutes leurs informations. Maintenant, une chanson choisie par l'équipe. Bonne écoute à tous.
« j'ai trop mangé de chocolat. Croque-moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os. S'il le faut, c'est le temps des grands métamorphoses. Au bout de mes tours, petit sein, sein, si nu pointu, et dos du deux, noisette craque.
Comme nous parlons tout au long de notre émission de bien manger et du plaisir que nous avons à manger, nous avons choisi de vous faire écouter une chanson qui parle de gourmandise et de plaisir. C'était la chanson « La femme chocolat » de l'auteur, compositrice, interprète Olivia Ruiz, artiste aux multiples talents. Cette chanson, créée en 2008, nous parle de plaisir et de sensibilité du chocolat. Nous avons tout de suite poursuivi notre émission « Chez moi, je mange bon » par l'écoute d'un nouveau plateau radio réalisé pendant l'atelier. La thématique abordée sera cette fois-ci « La mémoire du goût ». Évoqué lors d'interviews réalisées avec des professionnels et mes collègues stagiaires, qui vont vous faire partager certains de leurs délicieux souvenirs. Très bonne écoute.
Chez moi, on mange bon, vieillir et bien manger à domicile.
Pour cette nouvelle séquence de l'émission, Chez moi, je mange bon, nous allons maintenant parler de la mémoire du goût. Nous sommes trois des participants à l'atelier de Radio Calade. Je suis Isabelle et je suis accompagnée de Claude. Bonjour Claude.
Bonjour Isabelle.
Et aussi de Charles. Bonjour Charles.
Bonjour Isabelle.
Pour introduire le sujet, Charles, pouvez-vous partager avec nous un souvenir de votre enfance lié au goût ?
Eh bien, quand j'étais jeune, le souvenir le plus agréable que j'ai eu, c'est celui où ma mère faisait de la confiture. Et j'en profitais en ce sens que je prenais une petite cuillère et je prenais la mousse et je me délectais avec la mousse de la confiture qui chauffait. C'était bien agréable. Et puis je regardais autour de moi, il y avait des pots vides où on allait mettre la confiture cuite, parce que la confiture, une fois qu'elle est chaude, on la met dans des pots pour qu'elle refroidisse avant de la boucler. Alors on la boucle avec un papier cellophane, ce qui permet que la confiture de rester longtemps en bon état. dans le pot.
Vous participiez à la cueillette des mûres également ?
Ah oui, on allait tous avec, on avait un pot à lait en aluminium et on allait dans les chemins creux, et on cueillait les mûres, on les mettait dans le pot en aluminium et on les rapportait à la maison. Il fallait faire attention, bien entendu, aux épines, parce que les mûres poussent dans les épines. Et il vaut mieux pas ajouter du sang à la confiture.
À vous écouter, Charles, je sens que vos souvenirs touchent tous les sens. Le goût, l'odorat, également la vue.
Ah oui.
Et vous procurent différentes émotions. On se sent avec vous dans la cuisine. Entouré de ces pots de confiture, on sent même les odeurs. Pensez-vous que l'aménagement et les équipements de la cuisine, comme les vieux fourneaux, avaient de l'importance sur le goût de la nourriture ?
Alors là, tout à fait. Hein. Dans la cuisine, il y avait des ustensiles anciens, hein, des vieilles casseroles qu'on accrochait au mur. Il y avait évidemment la cuisinière en fonte. Et il y avait aussi le moulin à café manuel, bien entendu. Et c'était très agréable. On était très impressionnés quand on allait à la cuisine, d'autant plus qu'on allait à la cuisine, c'était sûrement espérer de pouvoir goûter, j'allais dire presque clandestinement, aux produits qui étaient sur le feu.
Et vous, Claude, racontez-nous un souvenir d'enfance lié à un mets particulier.
Eh bien, c'était les bugnes. À l'époque des bugnes, j'allais chez ma grand-mère faire les bugnes. C'était toute une affaire d'état. Entre autres, on ne me demandait pas mon avis. Maman me disait, tu vas chez grand-mère lui aider. Et nous en faisions des grandes quantités. On remplissait une balle à lessive de bugnes. Et le soir, ma grand-mère invitait ses enfants, petits-enfants et tout le voisinage. C'était des bons moments chaleureux pour nous tous.
Ce qui me touche dans votre souvenir, Claude, c'est le fort sentiment familial qui l'accompagne et le moment de partage à la confection, mais également à la dégustation. Vous n'étiez pas seul pour la dégustation.
Ah mais non, je vous disais, ma grand-mère invitait tout le monde, tout son voisinage et la famille. Et mais quand on avait fini de les préparer, on avait quand même le droit de les goûter. Hein. Peut-être bien une ou deux, parce que grand-mère était très stricte, c'était comme ça. Et c'est tout. Hein.
En vous écoutant, cela me rappelle un souvenir d'enfance avec ma grand-mère également. La fabrication du beurre. Je revois les crémeuses, la manivelle que tournait ma grand-mère, que j'essayais de prendre de temps en temps, mais c'était dur. Les chats qui lapaient le petit lait, la crème d'un côté, le moule, le beurre. Il en sortait une fleur sur le beurre. Boire le lait chaud à la sortie du pis, c'était également un souvenir et un délice. Claude, hors micro, vous nous avez parlé de la traite des vaches. Pouvez-vous nous en parler ?
La traite des vaches, ben c'était d'office, les enfants, on allait traire les vaches. Maman nous disait de prendre des précautions, telles que se mettre une vieille blouse, un foulard sur la tête pour ne pas sentir après. Hein. Et puis alors on s'installait avec notre petit tabouret, là, à trois pieds, et on avait chacune nos vaches à traire. Parce qu'il ne fallait pas les bousculer. Parce que si elles n'étaient pas d'accord ou si on leur faisait un peu mal en les traillant, elles donnaient facilement un coup de pied, ce qui faisait que le seau tombait et le lait était perdu. Mais moi, j'ai eu de la chance, ça ne s'est jamais produit.
Et y avait-il des odeurs particulières lors de cette traite de
vaches ? Oui, on aimait beaucoup cette odeur. Et puis, il y avait aussi les chats qui étaient là, qui attendaient. On leur donnait toujours une goutte dans leur plat. Mais oui, on nous permettait aussi d'en boire. Tout de suite, maman nous apportait des gobelets, on buvait du lait bourru, on appelait ça. C'était très agréable.
Après tous ces souvenirs savoureux, parlons un peu des fêtes qui approchent. Charles, comment se déroulaient les repas de Noël dans votre enfance ?
Ah, c'est très, très extraordinaire, c'est un merveilleux souvenir, parce qu'on était quand même 8 enfants, et on était autour d'une grande table ronde, et tout le monde aspirait, se léchait les babines pour savoir ce qu'on allait manger. Alors, bien sûr, on avait au préalable mis une grande nappe blanche et puis les 8 assiettes pour les 8 enfants et on apportait les plats. Mais alors, il faut vous dire quelque chose, c'est que chez nous, la salle à manger était au premier étage et la cuisine au rez-de-chaussée. Alors, il fallait monter et descendre les escaliers pour apporter les plats. C'est un détail, mais bon, on s'y était habitué, hein. Alors, évidemment, ce qu'on prenait, comme c'est presque la règle, on avait la bûche. Il y avait la bûche et qu'on tranchait en tranches et puis qu'on servait à chacun. Et on buvait du jus de fruits parce que maman n'aimait pas l'alcool. Alors, elle n'aimait pas le vin. Il fallait prendre des choses très saines, d'après son opinion.
Ben Claude, avez-vous des souvenirs marquants des Noëls de votre enfance ?
Je me souviens, ça me revient tout d'un coup, la veille de Noël, ma grand-mère descendait à pied de chez elle chez nous. On passait la veillée ensemble et quand arrivait 11h du soir, on s'en étouffait tous et nous montions à la messe de minuit. Je crois qu'on buvait un petit chocolat avant de partir. Et puis après la messe de minuit, alors à ce moment-là, c'est ma grand-mère qui nous invitait. On passait, faisait une halte chez elle, parce qu'elle avait préparé un saucisson qui était cuit, bien sûr, et qui était au coin du feu, qui était encore tiède. Parce qu'avant de descendre chez nous, passer la veillée, elle avait recouvert son brasier de cendre pour que ça reste bien chaud. Et après, on rentrait chez nous. Et bien sûr, le jour de Noël, c'était chez mes parents. Donc c'était comme chez Charles. Nous mettions une belle nappe, la nappe blanche, bien sûr. Je me souviens des bons œufs mimosa que maman faisait. Et pour que la mayonnaise se tienne bien, elle allait la faire dans une pièce froide. Le saucisson cru avec des jolis morceaux de beurre qu'on faisait en raclant avec la pointe du couteau, ce qui était comme des petits, je trouve plus long. Enfin, c'était des petites, ça faisait comme
des irlandes.
Oui, des irlandes. Il y avait bien sûr après, nous n'avions pas de dinde, mais il y avait des poulets, sûrement des poulets parce que nous étions nombreux. Peut-être de la purée et surtout le gratin de cardon pour terminer. Avec la bûche de Noël. Et ma grand-mère, une année, quand elle est arrivée pour le repas de Noël, elle est arrivée avec un régime de bananes, chose que je n'avais jamais vue. On était émerveillés. Et des oranges. Voilà les bons souvenirs. On n'avait pas de cadeaux, mais on était contents de tous se retrouver.
Très bien. Après tous ces souvenirs, nous recevons deux professionnels de l'AYASAD, Annelise Chambon, psychomotricienne, et Séverine Cramp, ergothérapeute. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'adresse à vous deux. Pouvez-vous vous présenter, nous parler également de vos métiers et la liaison avec la mémoire?
Bonjour, donc je suis Annelise Jambon, je suis psychomotricienne, je travaille à l'AYASAD, à l'équipe spécialisée Alzheimer. La psychomotricité est une thérapie à médiation corporelle qui vise à établir, rétablir ou maintenir un équilibre psychocorporel. Donc c'est une profession paramédicale diplômée d'État. Avec les personnes âgées, on privilégie des soins autour de l'équilibre, la mémoire et la communication. Nous travaillons donc dans l'équipe spécialisée Alzheimer, qui est composée d'une ergothérapeute, d'une psychomote et d'assistante de soins en gérontologie. On accompagne des personnes souffrant de troubles de la mémoire, dont la maladie d'Alzheimer, mais pas que. L'objectif des interventions sont d'aider les patients à maintenir leur autonomie en stimulant leur capacité pour les aider à rester le plus longtemps possible à domicile. Je laisse le soin à ma collègue Séverine Cramp de se présenter.
Merci. Alors, donc, moi, je suis ergothérapeute. Donc, je travaille aussi à l'équipe spécialisée Alzheimer à domicile. Donc, l'ergothérapie, rapidement, c'est une profession paramédicale, donc qui est diplômée d'État aussi. Le cœur de notre intervention, c'est l'autonomie du patient. Et ça passe par des actions de prévention, de rééducation et de réadaptation. Les domaines d'application et les moyens sont très divers selon les pathologies, mais en équipe spécialisée Alzheimer, par exemple, ça va prendre la forme de séances individuelles de stimulation cognitive, d'ateliers de prévention collective et d'une attention qui va être portée particulièrement sur la situation au domicile des patients afin d'identifier d'éventuels besoins d'aménagement du domicile ou matériel ou d'aide humaine.
Très bien. En tant que professionnel, quel éclairage pouvez-vous nous apporter sur les témoignages que nous venons d'entendre et sur la mémoire du goût ?
Donc, Madame Cramp et moi-même, on intervient dans le service de prévention de l'IASAD. Nous animons des ateliers de prévention divers et variés, en particulier sur le thème des chutes et le thème de la mémoire, ce qui nous amène aujourd'hui ici avec cet atelier sur le thème de la nutrition et de la mémoire. Séverine va nous expliquer un petit peu en quoi la mémoire du goût impacte.
Oui, pour revenir sur les témoignages qu'on vient d'entendre, je trouve qu'ils reflètent bien justement la façon dont la mémoire fonctionne. La mémoire, comme beaucoup de fonctions cérébrales, ça garde encore un petit peu une part de mystère. Mais il y a des mécanismes qui sont bien identifiés aujourd'hui. Ce qui ressort des témoignages qu'on vient d'entendre, c'est que la mémoire du goût, c'est vraiment une composante de ce qu'on appelle la mémoire sensorielle et que les mémoires des différents sens s'articulent entre elles. Une notion qui est bien admise aujourd'hui aussi, c'est l'impact de la part affective ou de la part émotionnelle dans l'ancrage et dans la qualité de la mémorisation. Donc, plus de composantes sont engagées dans une expérience ou dans un apprentissage, plus la mémorisation, c'est-à-dire le stockage et la capacité à restituer, va être efficiente. Et je trouve que c'est quelque chose qui est bien ressorti des témoignages qu'on vient d'entendre.
Merci à vous deux pour ces éclairages. Je remercie également Claude et Charles pour ce voyage dans la mémoire du goût.
Isabelle, à notre tour, nous vous remercions d'avoir mené cette interview.
Je me joins à Claude pour remercier. Ça a été très bien mené et je crois que c'est très enrichissant.
Merci beaucoup. Et l'émission se poursuit, tout d'abord avec une pause musicale sélectionnée par l'équipe. Bonne écoute à vous toutes et tous.
Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons. J'espère qu'on pourra se promener. Madame, votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8h. Moi, je vous ramènerai. Quel beau dimanche, allez, pour la saison. Je vous ai apporté des bonbons. Vous saviez ce que je suis fier de vous voir pendu à mon bras. Les gens me regardent au travers, il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons. Je vous ai apporté des bonbons. Oh oui, Germaine est moins bien que vous. Oh oui, Germaine, elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça, vous avez mille fois raison. Je vous ai apporté des bonbons. Et nous voilà sur la grande place. Sur le kiosque, on joue Mozart. mais dites-moi que c'est par hasard qu'il y a là votre ami Léon. Si vous voulez que je cède la place, j'avais apporté de bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine, je vous ai apporté de bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton, allez.
Cette chanson, Les bonbons, qui date de 1963, magnifiquement interprétée par Jacques Brel, le grand Jacques, comme on l'appelait, nous montre qu'on en a toujours utilisé les gourmandises pour attirer les gens. Et maintenant, nous vous proposons de terminer cette émission, justement, par des gourmandises sur un plateau. Des échanges en direct avec notre chef pâtissier, des élèves et mes collègues à propos de la gourmandise. Et peut-être une dégustation, car notre chef pâtissier a cuisiné en direct pendant toute l'émission. Et on ne va pas gaspiller. Bonne suite à tous.
Chez moi, on mange bon.
Vieillir et bien manger à domicile. Notre émission se termine avec la séquence Gourmandise sur un plateau, qui se déroulera avec nos deux invités, Céline Pognan, diététicienne à l'hôpital de Beaujeu, et Lilian Charbonnier, chef cuisinier. Nous accueillons aussi les élèves de la maison familiale et rurale de Charentais, ainsi que les élèves du collège de Beaujeu, qui auront préparé des questions pour nos invités et nos seniors stagiaires. Ensuite, le chef nous parlera de ses préparations de pâtisserie qui seront distribuées au public. Enfin, nous vous donnerons la parole à vous, public.
Voilà, donc on va se tourner vers les écoles. On va commencer par le collège de Beaujeu qui ont des questions à poser à notre chef cuisinier, donc Lilian Charbonnier, et à la diététicienne de l'hôpital, Céline Pognan. Donc, on va commencer tout d'abord, avant d'avoir ces questions, par demander à un professeur de ce collège de Beaujeu de bien vouloir présenter son établissement.
Bonjour, je suis Florence Brunet, la principale du collège de Beaujeu. Donc, l'établissement accueille tous les jours 280 élèves, 25 professeurs et environ une cinquantaine de personnels. Lorsqu'on nous a proposé ce projet, en fait, on a retenu trois mots, radio, intergénérationnel et puis bien manger. Donc, Madame Chavreau ici présente, Madame Maire, également professeur documentaliste, se sont emparés du projet. Et les élèves de 5e 1 sont là pour poser des questions.
Alors tout de suite, on va écouter la première question. Alors ces questions sont posées à nos deux participants, nos deux invités. C'est Jules.
Comment pouvez-vous remplacer le sucre dans les desserts? Utilisez-vous d'autres produits que le sucre blanc?
Bonjour Jules. Personnellement, je suis plutôt adepte des vrais sucres, en fait. C'est-à-dire que je préfère mettre du miel ou utiliser dans mes recettes des fruits qui sont un petit peu plus sucrés que d'autres. Je préfère utiliser ça plutôt que d'utiliser ce que moi j'appelle des faux sucres, c'est-à-dire de la stevia ou du xylitol, qui sont des produits dérivés qui ont un très fort pouvoir sucrant et qui vous font souvent croire, comme dans une célèbre boisson noire pétillante, qu'il y a zéro sucre dedans. Et en fait, il n'y a pas zéro sucre dedans, ça ne vous fait pas du tout perdre le goût du sucre. Donc il vaut mieux en mettre un petit peu moins que du coup utiliser ces sucres-là. Et une deuxième petite astuce, c'est que pour rehausser parfois certains goûts, en tant que pâtissier ou cuisinier, on va mettre une petite pincée de sel dans les recettes sucrées. Et ça va avoir un effet de rehausser le goût. C'est un exhausteur de goût et qui permet de mettre un petit peu moins de sucre dans mes recettes.
Alors, au tour de la diététicienne, de voir si elle est d'accord avec le chef.
J'espère.
Pendant ce temps-là, Colin est en train de distribuer les pâtisseries qui ont été réalisées par le chef.
Alors, je me permets juste de remercier énormément Colin pour son travail. Et les pâtisseries qu'il est en train de distribuer, pour la petite histoire, il les a, pour certaines, cuisinées lui tout seul. Tout à l'heure, je lui ai montré. Donc, merci à toi, Colin. C'est Colin Sanchez, élève de 5e 1 au collège du Coup de Beaujeu.
Alors, pour revenir sur le sucre, effectivement, il paraît plus judicieux de diminuer les quantités de sucre dans les desserts ou bien les remplacer par des fruits, parce que ça permet déjà de diminuer l'apport calorique sans forcément beaucoup modifier le goût. Après, si on décide de remplacer effectivement par du miel ou du sirop d'érable, on peut quand même le faire. Ça nous permettra quand même d'apporter des nutriments, des vitamines et des antioxydants. Et au niveau nutritionnel, ça peut être intéressant de remplacer le sucre par ces aliments-là.
Voilà, donc on va passer à la deuxième question, toujours à nos deux invités, une question de Maëlys.
Vous arrive-t-il de remplacer un ingrédient d'un dessert par un légume, par exemple la courgette ?
Bonjour Maëlys. C'est une bonne idée. Ça permet déjà de faire manger des légumes à des gens qui seraient peut-être réfractaires. Donc oui, il y a plein de recettes qui existent que vous pouvez trouver et essayer d'ailleurs sur internet, parce que la cuisine, c'est essayer, c'est se planter, mais c'est aussi essayer. Les recettes les plus célèbres partent d'erreurs au départ. La tarte tatin, c'est une tarte qui a été renversée. Ma grand-mère faisait un gâteau un jour, elle a oublié la levure et c'est devenu un très bon gâteau qu'on appelait le sirop dans la famille et qui ressemblait plutôt à un clafoutis. Donc tout ça pour dire qu'en termes de légumes, tu peux intégrer de la carotte dans un cake. De la courgette dans un brownies. Tu peux aussi faire, qu'est-ce que j'ai comme autre recette ? Un moelleux chocolat betterave, par exemple. Le plus malin, c'est donc de le faire sans le dire. C'est-à-dire que tu le fais, tu ne dis pas aux gens qui vont déguster ce qu'il y a dedans, parce que sinon, ils vont toujours faire semblant d'avoir découvert qu'il y en avait dedans. Alors qu'en fait, dans la réalité, ça ne se sent vraiment pas. Et très souvent, ça permet de diminuer d'une bonne moitié le beurre, par exemple, dans certains plats. Donc, c'est une très bonne idée.
Et du coup, au niveau nutritionnel, on va avoir trois intérêts de remplacer les ingrédients par des légumes. Donc le premier intérêt, ça va être dans le cas d'une allergie. Par exemple, quelqu'un qui va être allergique au blé, on va pouvoir remplacer la farine par des haricots rouges ou des haricots blancs. Le deuxième intérêt, ça va être de pouvoir apporter des fibres et des vitamines à la recette. Ça permet de faire manger des légumes aux enfants. Et puis le troisième, ça va être de diminuer l'apport calorique, justement en remplaçant, comme l'a dit Lilian, le beurre par la courgette ou le sucre par la betterave ou la carotte. Donc on va avoir des desserts qui vont être un petit peu plus light.
Voilà, donc on va passer à la troisième question. Marie, donc, qui a une question à poser à nos invités.
Peut-on revisiter des desserts classiques avec des barres chocolatées ?
Bonjour Marie, merci pour ta question. Alors, tu m'en veux pas, mais là, je vais être un petit peu moins d'accord que sur les deux précédentes questions. Donc, non, je trouve que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce qu'en fait, la plupart de ces barres chocolatées, elles sont composées d'énormément d'additifs qui sont là pour deux objectifs, la conservation de ces produits-là, qui se conservent très longtemps, et aussi pour créer une addiction, c'est-à-dire que du coup, ça vous donne envie toujours d'en manger plus. Donc du coup, il vaut mieux faire des recettes de gâteaux à base de produits bruts, du chocolat tout simplement, du vrai beurre ou des vrais produits, quitte à utiliser, si vraiment tu le souhaites, parce que ça fait un petit peu fun, ces produits-là, ces barres chocolatées, comme tu le dis, en décoration ou ainsi de suite. Mais les utiliser en produits de base de recettes, au niveau nutrition, et je pense que Céline sera d'accord avec moi, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, voire même c'est assez néfaste.
Voilà, donc peut-être au niveau de la diététicienne, les barres chocolatées.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Lilian, effectivement, c'est tout ce qui est un produit industriel et pas forcément très très bon, et il vaut mieux faire des petits desserts maison que de manger toutes ces barres qui sont alors faciles à acheter et faciles à manger, mais qui sont pas forcément meilleures que ce que vous êtes en train de manger là, je pense.
Un bon gâteau yaourt, il y a que ça de vrai.
Voilà, merci donc aux élèves du collège de Beaujeu. Avant de passer au collège, à la MFR de Charentais, un petit peu, maintenant qu'on connaît un petit peu ces techniques de cuisine, se tourner vers notre chef pour qu'il nous parle un peu de son parcours, comment on est tombé dans une cuisine, d'une cuisine à une pâtisserie, c'est quoi le parcours, comment on devient pâtissier ?
Alors, pour ma part, j'étais comme beaucoup de jeunes, en fait. J'hésitais vraiment en termes d'orientation. Et pour être très franc avec vous, j'hésitais entre la menuiserie et la cuisine. ce qui en soi apparemment pas beaucoup de points communs, hormis si on réfléchit bien à la créativité peut-être et des petites choses de faire des choses avec ses mains. J'ai donc choisi la cuisine parce que le contexte familial s'y prêtait, et ensuite la pâtisserie dans un deuxième temps parce que je suis relativement gourmand. Et pour la partie cuisine, tout est parti en fait de, puisqu'on parle de repas pour les seniors sur cette émission, tout est parti de ma grand-mère à l'époque qui se faisait livrer des repas par l'hôpital du coin et des repas qu'elle avait du mal à consommer, et je me suis dit peut-être que à la base et en partant de notre restaurant avec mon épouse, on avait moyen de travailler un petit peu plus de produits frais et d'essayer de proposer un produit un peu différent. Et donc aujourd'hui on livre 150 à 200 repas par jour, soit via les ADMR ou autres structures de service à la personne qui livrent nos repas, soit c'est nous qui les livrons en direct.
Alors on a beaucoup entendu dire qu'il n'y a pas que le goût qui est important dans l'alimentation, dans la nourriture. Il y a aussi les odeurs, etc. Mais il y a aussi la présentation. Et au niveau de la présentation, pour faire plus tip-top que la pâtisserie, ça va être dur. Quelle attention vous y portez? Quel rôle vous lui dévouez cette présentation, ce raffinement?
Alors, avant de parler de la présentation aux pâtisseries, je ferai juste un parallèle sur la partie portage de repas. Nous concernant, on arrive à livrer des repas dans de la vraie vaisselle, en fait. Ce qui fait que lorsque la personne est livrée, en fait, elle décloche en fait son plateau et elle a tout de suite un contact visuel avec le produit. On a essayé de travailler aussi avec des ergothérapeutes pour que les produits soient dans des contenants pour que les clients ne se mélangent pas les pinceaux. Ensuite, pour revenir à la présentation et à la pâtisserie, puisque c'était le sens de votre question, l'idée avant, plus efficace que la présentation, c'est que les gens fassent, en fait. C'est-à-dire qu'on anime énormément d'ateliers vis-à-vis soit des seniors, soit de publics plus actifs, parce que, en fait, c'est en faisant que ça met en appétit. C'est lorsque vous mettez les mains dans la matière que ça vous donne envie de consommer derrière. Ça marche aussi bien, d'ailleurs, dans les écoles avec les élèves que, du coup, dans certaines structures avec certains seniors.
Alors, on ira à la découverte des pâtisseries que vous nous avez proposées, mais d'abord, on va se retourner vers vers la MFR de Charentais, Maison Foyer Rural, hein, ça veut dire MFR, hein, faut pas utiliser les sigles. Et tout d'abord, on va faire pareil, voir si un professeur peut nous présenter son établissement.
Bonjour, je suis Laure Matret, formatrice à la maison familiale de Charentais, responsable de la classe animateur en gérontologie. Donc, les maisons familiales rurales dites MFR sont des écoles qui proposent des formations en alternance, 50% dans le milieu professionnel et 50% de temps à l'école. Donc, à Charentais, nous avons 4e et 3e d'orientation, CAP, service aux personnes et vente en milieu du rural en 2 ans, Bac pro service aux personnes et aux territoires en 3 ans et une formation adulte animateur en gérontologie en 1 an. Si vous voulez découvrir les MFR, toutes organisent les portes ouvertes le samedi 28 janvier de 9h à 17h et vous êtes les bienvenus.
Voilà, merci. Il y a donc maintenant les élèves de Charentais donc vont poser des questions pour taquiner encore un peu plus que ce qu'on a déjà fait, la mémoire de nos invités. Donc c'est Florence qui va poser une question à Claude.
Bonjour. Très souvent dans les familles, il existe une recette qui se transmet de génération en génération. Est-ce le cas pour vous? Et quel est le moyen de cette transmission? Et peut-être le tour de main spécial qui rend cette recette plus gourmande?
Bonjour. Mais oui, nous avons des recettes de famille. Excusez-moi, je vais parler des gaufres. À la campagne, nous faisions des gaufres à un repas complet. Et maintenant, moi je continue. Donc, dans un grand saladier, je mets un certain nombre, bien sûr, de farine, des œufs, un petit peu d'huile, du bicarbonate de soude, beaucoup de lait, et je brasse bien ça longtemps. Après, je remets un peu d'eau pour les rendre craquants. Je laisse reposer un peu ma pâte. Et quand arrive midi, je branche mon gaufrier et mes invités arrivent. Et alors, nous faisons un repas, bien sûr, des gaufres. En entrée, c'est des gaufres avec des œufs à la crème. Après, c'est du fromage blanc et de la salade verte. Et on finit par différentes confitures. Mais c'est vraiment une joie que mes petits-enfants ont Il me demande dans l'été, mamie, fais-nous des gaufres. Et à tour de bras, je fais des gaufres. Et c'est une recette qui me vient de loin et je pense qu'elle continuera parce que les arrière-petits-enfants m'en demandent.
Oui, mais c'est bien beau qu'ils en demandent. Si c'est toujours la même personne qui les fabrique, ça peut se perdre. Est-ce que non seulement vous les fournissez en gaufres, mais est-ce que vous leur faites mettre la main à la pâte?
Ah oui, oui, volontiers. Ils vont changer la gaufre. Et puis, il y a une chose. La recette, il paraît que j'ai un tour de main, je veux bien le croire. Mais vraiment, c'est vraiment apprécié.
Donc, ils vont savoir faire des gaufres quand ils seront plus grands?
Ah oui, oui, mais tous. Moi, j'en ai un garçon qui a 6 ans, ça veut faire la pâte à gaufres tout seul.
Oh, mais regardez donc, on le félicite.
Il y avait un robot, bien sûr. Mais à l'époque, il était malade. Il ne fallait pas qu'il aille jouer dehors avec les autres enfants. Il n'y avait pas la télévision. Et je me suis dit, à quoi je vais l'occuper? Et nous étions en pleine vendange. Eh bien, j'ai installé à la cuisine. Je lui ai montré un jour. Je lui ai dit, tu fais des gaufres pour les cuisinières. Et un jour, il en a fait pour tous les vendangeurs. Donc, ça l'occupait, puis en même temps, ça nous a rendu service.
Ça va peut-être devenir un futur chef. Donc, savoir, il est tombé dans la marmite il n'y a pas longtemps, très jeune plutôt. Question numéro 2, donc, de Marie-Laure, pour Jeannine.
Bonjour. Quelle est votre définition d'un repas de Noël réussi? Et avez-vous une anecdote, un souvenir d'un de vos repas de Noël d'enfance?
Un repas de Noël réussi.
Alors, ça veut dire, je ne sais pas si ça laisse des souvenirs, mais un repas de Noël classique, qui se fait à présent, eh bien, nous avons déjà du foie gras, du saumon fumé, nous avons ensuite souvent des dindes, ou bien de l'oie, ou du gibier, parce que nous avons des chasseurs dans la famille. Et avec ça, on a un gratin ou simplement un plat de cardon à la moelle. C'est ce qui fait couramment chez nous. Voilà. Ensuite, nous avons bien sûr les desserts. Les desserts, ce sont les bûches. Et souvent, c'est les enfants ou les petits-enfants qui font les gâteaux. C'est moins joli que chez le pâtissier, mais c'est très très bon.
Alors, dans un repas de Noël réussi, il n'y a pas que les assiettes et puis ce qu'il y a dedans. Hein, il y a aussi le décorum. Hein,
Bien sûr, il y a les sapins, il y a les guirlandes.
Il y a la belle table, les beaux services, les belles assiettes.
Ah bah oui, bien sûr. La veille, c'est toute une préparation. Il faut sortir les nappes, les serviettes, mettre des décorations, des bougies, du sapin, du houx, qui nous viennent de la campagne, et puis on étale tout ça sur la table le plus joliment possible.
Alors, est-ce que vous avez un souvenir marquant d'un de vos Noëls à vous quand vous étiez petite?
Ah, mes Noëls à moi, c'était beaucoup plus simple. Je me souviens de mon Noël, de mes veillées de Noël. C'était très, très court, hein. C'était très simple et on a vraiment des très bons souvenirs. Parce que je me trouvais avec ma famille et mes deux sœurs. Nous avions un voisin qui aimait venir aussi avec nous parce qu'on se préparait pour aller à la messe de minuit. Alors, on faisait des jeux, des activités comme ça. Et puis quand arrivait 10h, 10h30, on buvait un petit cacao et après on partait à la messe de minuit. Alors c'était assez long, il fallait monter une bonne côte, et là, c'était bien plaisant, parce que quand on est jeune, on ne rit pour rien. Alors, on arrivait à la messe, et voilà, on chantait, il y avait énormément de chants de Noël, il y avait beaucoup de musique. Il y avait un monsieur qui chantait « Minuit chrétien », c'était un solo, et c'était très beau. Enfin, nous, on trouvait ça très beau. Et après, on avait ensuite une messe chantée, une messe basse, etc. C'était très long. On n'avait pas toujours très chaud. Et quand on repartait, on était content de s'agiter un petit peu pour se réchauffer. Mais après, c'était retour à la maison, un petit cacao et on allait se coucher. C'était tout simple. C'était tout simple et c'était surtout très sympathique puisqu'on a, on s'en rappelle toujours, on en reparle toujours avec mes sœurs. Et alors on se dépêchait d'aller se coucher parce que le lendemain, on remontait à la messe de Noël.
Voilà, merci Marie-Laure pour ses Jeannine pour ses souvenirs. Rebecca donc maintenant qui va poser une question à Maggie.
Bonjour Maggie, quel est le changement le plus important que vous notez entre les repas de votre enfance et ceux d'aujourd'hui?
Ah, la différence est énorme.
Bonjour Rebecca. Jusque dans les années 60, les repas de fête c'était pentagruélique. Très riche, très copieux. Souvent plusieurs entrées. Un poisson, souvent le brochet mayonnaise maison. Pas vraiment light. De la viande. Et puis un petit coup du milieu. On allait faire un petit tour, puis on venait et on recommence. Viande, encore. Bien sûr, fromage et dessert. Alors souvent mousse au chocolat, très léger évidemment. À la neige, maison. Il n'y avait pas de... On mangeait les produits de locaux, les produits de saison, évidemment. Il n'y avait pas de congélateur, ou du moins, non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de produits transformés, ou très peu. Il n'y avait pas de traiteur. On n'avait pas de salade toute prête, pas de pizza, pas de surgelé. C'est un autre monde. C'est vrai, j'ai l'impression de prendre un coup de vieux, là. Quand j'étais petite, on m'a raconté souvent que... On me demandait ce que je voulais manger, je répondais toujours, invariablement... De la purée et un coq. Alors le coq, c'était le poulet, évidemment, de la ferme. Et puis alors, la purée, je ne vous raconte pas. Des pommes de terre, évidemment, de chez mon papa. Avec du lait entier. Je continue. De la crème, évidemment. Un bon gros bout de beurre. Et évidemment, le jus du poulet. Voilà.
Alors dans la purée, il arrive que des fois, on faisait un petit volcan avec un creux. Ah bah et qu'on mettait le jus...
Oui, c'est
en
ça.
Haut, dans le cratère.
On faisait un puits, oui, un puits avec le jus.
Eh bien, merci Maggie. Et on passe à la dernière question, dans une question de Marion pour Marie-Thérèse.
Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. On parle très souvent du plaisir de manger, du bien manger. Pouvez-vous nous donner votre définition du bien manger et quelques exemples?
Alors, bonjour. Alors, tout d'abord, pour moi, le bien manger, c'est un plaisir. Le plaisir, il est là. Plaisir de cuisiner et varier son alimentation. Choisir des produits frais le plus possible, des légumes de saison, et si on a la chance d'avoir un jardin, ceux de son jardin, bien sûr. Et des produits en circuit court aussi, essayer d'acheter les produits qui sont fabriqués près de nous. Et surtout, ce qui est très important, c'est équilibrer ses repas. Aussi, ce qui est important, c'est à la fois, il y a le goût et aussi, il y a le visuel pour l'œil. Donc, on peut agrémenter avec quelques épices, par exemple. Bon, alors, on n'est pas toujours habitué aux épices, mais en rajoutant un petit peu, ça donne tout de suite plus de vie à nos plats. Par exemple, mettre de la noix de muscade dans la purée. Et puis peut-être aussi, si on veut la rendre un petit peu plus belle, on peut mettre un petit peu de potimarron ou un petit peu de courge, de potiron. Voilà, tout ça, ça donne tout de suite plus envie de manger. Et puis, en été, dans la salade, on peut mettre aussi des herbes, des tomates, même en automne, de la betterave rouge, des choses qui sont agréables pour l'œil. Et puis, dans un pot-au-feu, par exemple, on peut mettre aussi des légumes originaux. Bon, bien sûr, il y a les traditionnels carottes, poireaux, navets, pommes de terre, mais on peut rajouter, par exemple, du panais, de la topinambour, et puis de la patate douce. Donc tout ça, ça donne quelque chose d'original et d'agréable à manger, peut-être découvrir pour certains des nouvelles saveurs. Voilà. Pour moi, tout ça, ça fait partie du bien manger.
Au moins, c'est clair. Et puis surtout qu'on a le détail. Hein, donc voilà, merci bien. Merci à tous les élèves qui ont posé des questions, les participants. Alors, la distribution de pâtisserie continue par Colin. On va se retourner avant de vous demander si quelqu'un veut s'exprimer sur ces pâtisseries. Qu'est-ce qui nous a préparé alors le chef ?
Alors, Colin déjà m'a bien aidé, entre parenthèses. Et depuis tout à l'heure que vous parlez, il distribue du coup trois recettes qu'on a travaillées ensemble. La première recette, c'est une tuile dentelle orange et amande que Colin a trempée pour que ce soit un petit peu plus gourmand encore, hein, dans un chocolat fondu. Alors, une tuile dentelle, vous savez, c'est le genre de petite pâte, en fait, qu'ensuite, pour lui donner une forme arrondie, on va mettre sur le rouleau à pâtisserie ou sur le manche à balai, ça dépend ce qu'on a sous la main. Et en fait, cette recette-là, elle est intéressante puisque du coup, on l'appelle dentelle puisque du coup, toute l'humidité s'évapore à la cuisson. Et donc, ça fait des petits trous dessus. C'est une recette qui se conserve très bien, comme tous les gâteaux secs, sans aucun souci. Deuxième recette qu'on a travaillée, c'est un fondant en châtaigne. Donc là, c'est une recette plutôt de famille. On a réfléchi cette recette parce qu'elle est importante pour le public senior. Elle est pratique, je dirais, parce qu'en fait, elle se conserve très, très bien. Donc, c'est une recette à base de crème de marron. Alors, la diététicienne ne va pas forcément être contente et d'accord avec moi. Mais
si, je suis d'accord.
Si, t'es d'accord ? Ok. Alors, c'est une recette... Qui amène aussi un petit peu de plaisir, parce que manger, c'est aussi du plaisir. Donc, je vais donner les éléments, puis Céline, tu me diras si ça peut apporter quelque chose d'intéressant au niveau nutrition. Mais du coup, on a donc de la crème de marron, on a de la crème 18%, pas nécessaire d'avoir une crème très très riche par rapport à ça, et quelques œufs. Donc, la crème de marron, ça amène quelque chose d'intéressant peut-être ?
Alors, c'est intéressant parce que le marron est un fruit, mais c'est surtout que du coup, le crème de marron va remplacer le sucre aussi.
Donc on va être sur un sucre relativement sain. Et pourquoi cette recette est pratique ? Parce qu'en fait, ce qui est compliqué lorsqu'on cuisine pour une ou deux personnes, c'est que du coup, il faut avoir un produit soit qui se mange entièrement sur le moment, soit qui puisse bien se conserver. Et là, on est sur un produit qui frais va se conserver facilement, sans aucun souci, 3 ou 4 jours, et surtout qui peut se surgeler derrière sans aucun problème, en petites portions, et que vous pouvez du coup retirer du congèle quand vous en avez envie. Troisième recette qu'on a travaillée, et là c'est un petit peu plus original, ça fait partie des recettes anti-gaspi qu'on réfléchit, c'est une recette de cookies à base de pain rassis. Alors, j'ai amené, je ne sais pas si c'est très radiophonique, hein, mais j'ai amené le type de pain qu'on utilise pour vous montrer comment il peut être très sec. Alors, je ne sais pas si ça s'entend, mais on est sur du pain qui est relativement sec. Pour la petite histoire, dans notre restaurant, on fait des pots de pain tous les dimanches, puisqu'on est dans un petit village de 600 habitants, et on avait régulièrement du pain en trop, parce que c'est compliqué pour les gens d'anticiper toujours leurs besoins par rapport à ça, et on ne savait pas quoi en faire. Donc on a essayé de réfléchir comment est-ce qu'on pouvait transformer de manière gourmande ces restes-là, et on a trouvé une recette. Alors, on peut vous la détailler, mais je ne sais pas si c'est trop l'objet, mais on fait bien sécher le pain au four, on en fait de la chapelure, et la chapelure vient avantageusement remplacer la farine dans cette recette, avec un petit goût de biscotte même, qui amène un petit supplément à cette recette-là. Voilà les trois recettes qu'on vous a préparées avec Colin. Merci d'ailleurs, Colin, pour ton aide.
Voilà, merci Colin. Céline, quelque chose à rajouter sur tout ce que vient de dire notre chef ?
Non, je trouve que ces trois recettes sont très intéressantes parce qu'elles apportent toutes quelque chose de différent. Alors après, sur le gaspillage, c'est vrai qu'on a, les anciens le savent mieux que nous, c'est que en fait, cuisiner les restes, c'est quand même la base, de ne pas jeter les restes et puis de pouvoir réinventer de nouvelles recettes avec ce qu'on peut avoir dans le frigo de la veille ou de l'avant-veille.
Ok, merci bien. Est-ce que dans le public, ceux qui ont goûté les pâtisseries du chef, quelqu'un veut s'exprimer, ça lui rappelle quelque chose ou simplement c'était bon ? C'était bon. Ah. Voilà, c'était bon. Bon, merci. Et vous
merci.
Allez pouvoir continuer cette dégustation. Je me tourne maintenant vers ma compère Isabelle qui va nous dire quelque chose.
Et maintenant, nous fermons notre plateau et nous remercions chaleureusement tous les stagiaires de l'atelier, Marie-Thérèse, Maggie, Charles, Marie-Antoinette, Mijot, Janine, Claude, Marie-Claude, Magali et Isabelle.
Alors, Effectivement, je vous confirme que vous pouvez les féliciter. Ça a l'air de rien, hein, de se mettre à un micro et de parler. Ils ont passé, elle plutôt, parce que c'est un gros maximum, un maximum de temps à l'écriture, savoir comment prononcer sa phrase, comment garder l'attention du public, comment avoir le sourire quand on parle. Voilà, tout ça, ils l'ont découvert, ils l'ont appris, et je les en félicite parce que ça a l'air de rien, mais ce n'est pas rien. Isabelle ? Non, on va peut-être écouter donc une chanson avant d'avoir la conclusion définitive de cette émission.
T'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas et y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit.
Nous avons offert un petit voyage sur les îles, ces endroits pleins de saveurs gourmandes, avec la chanson « Salade de fruits », datant de 1959, créée par le grand parolier Noël Roux, auteur de « La tendresse », grand succès de Bourvil, l'interprète de cette chanson. Notre émission se termine. Je remercie tous mes collègues stagiaires de cet atelier radio. Et nous remercions tous et toutes nos invités qui ont répondu à toutes nos questions en nous apportant de multiples informations. Un grand merci aussi aux organisateurs de ce projet, l'association Silver Fourchette, l'AYASAD, le CCAS de Bougeux, le Conseil départemental du Rhône et aux partenaires de cette émission. le chef de l'atelier du cuisinier, Lilian Charbonnier, les professeurs et élèves du Collège de Beaujeu et la maison familiale rurale de Charenté, ainsi que l'hôpital de Beaujeu. Et enfin, remerciements à toute l'équipe de Radio Calade qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Émission que vous pouvez réécouter sur le site de radio www.radiocalade.fr et sur son compte Facebook. Et enfin, un chaleureux merci au public présent dans le théâtre de Beaujeu pour ce direct. Et à vous toutes et tous, chères auditrices et auditeurs, à bientôt sur Calade 100.9. Chez moi, on mange bon.
Vieillir et bien manger à domicile.
Un pied de micro, torse nu, pour un oui, pour un non, quand le soleil fait ses apparitions. Maigrir à tout prix, devenir fin, élancer, rester dans les normes, éviter les débordements. Comment devenir fin sans devenir fou? Devenir fin sans devenir fou. En chemise, les jours de détente, on pouvait croire que j'étais le Mike Brandt. À qui tout allait, qui se souciait de rien. Je mettais du 36, ça m'allait bien. Mais à tout prix devenir fin, élancer, rester dans les normes, éviter les débordements. Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou?